Vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, 22h ici à Paris, 20h temps universel, l'heure d'un nouveau journal.
Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, William Ruto annonce le retrait du projet de budget au Kenya. Le président kényan, qui l'a précisé tout à l'heure dans une allocution télévisée, texte à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a fait au moins 23 morts hier. Premier jour du procès d'Evan Gershkovitch en Russie. Procès à huis clos pour ce journaliste américain de 32 ans, détenu depuis 15 mois en Russie pour des accusations d'espionnage qu'il rejette. Au sommaire également, J-4 avant les élections législative en France, et le Danemark signe un accord historique pour mettre en place une taxe carbone sur l'élevage.
RFI.
Le gouvernement kényan rétropédale au lendemain de manifestations où au moins 23 personnes ont été tuées lors de la répression des forces de l'ordre. Le président William Ruto l'a annoncé en personne cet après-midi. Le projet de finances 2024 qui avait provoqué cette colère de la population a finalement été retiré. Voté hier par les parlementaires, elle devait encore être signée par le chef de l'État. Depuis plus de 10 jours maintenant, cette loi qui prévoit de nouvelles taxes fait l'objet d'une forte contestation. Comme celle d'hier. L'ONU demande ce soir que les responsabilités soient clairement établies après ces violences. William Ruto, qui a donc cédé à la pression de la rue, il s'est exprimé à la télévision cet après-midi.
I run a government, but I also lead people.
Je conduis un gouvernement, mais je gouverne aussi un peuple, et le peuple a parlé. Après le vote de la loi, le pays a été témoin de manifestations de mécontentement généralisées. En conséquence, écoutant avec attention le peuple kényan, qui a clairement dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la loi de finances 2024, je ne signerai pas cette loi. Elle sera par conséquent retirée, et nous avons convenu avec les parlementaires qu'il s'agissait là de notre position collective. Maintenant, nous avons besoin, en tant que nation, de repartir de là et d'aller vers le futur. Je vais proposer un dialogue avec les jeunes de notre pays. Je recommande aussi un dialogue multisectoriel, bipartisan et général avec la société civile, les organisations religieuses, les syndicats, pour qu'en tant que nation, nous parlions du futur ensemble.
Pour cette prise de parole du président kényan William Ruto. C'était ce mercredi début du procès à huis clos du journaliste américain Evan Gershkovitch, accusé d'espionnage, incarcéré en Russie depuis 15 mois. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison et il rejette ces accusations. Washington, de son côté, dénonce un simulacre de procès. Mais depuis plusieurs mois, Moscou et les États-Unis mèneraient des négociations en vue d'un échange de prisonniers. Alors cette question, que sait-on de ces négociations ? Élément de réponse avec Yelena Tomic.
Même si les relations sont au plus bas entre la Russie et les États-Unis, la diplomatie de l'ombre ne s'arrête jamais, et notamment lorsqu'il s'agit du sort des prisonniers. Un sujet sensible pour les États-Unis, sachant que la Russie détient actuellement plusieurs Américains, dont Paul Whelan, un ex-marine condamné à 16 ans de prison pour espionnage, accusation qu'il conteste. Ces négociations, par définition confidentielles, ne sont généralement révélées au grand public qu'au moment de la libération et de l'échange de prisonniers. Dans le cas d'Evan Gershkovitch, plusieurs pistes indiquent que des pourparlers sont en cours. En février, Vladimir Poutine avait admis discuter avec Washington et sous-entendu un échange avec Vadim Krasikov, un Russe condamné à la perpétuité en Allemagne après l'assassinat en 2019 à Berlin d'un ex-commandant séparatiste tchétchène. Un haut diplomate russe avait révélé que Moscou avait bien fait une proposition d'échange de prisonniers, mais sans préciser le contour exact de l'offre, et d'ajouter que la balle était dans le camp des États-Unis. Des observateurs affirment qu'un échange n'est pas exclu, mais qu'il n'interviendrait pas avant le verdict qui pourrait être prononcé dans plusieurs semaines.
Yelena Tomic, lui, en revanche, est tiré d'affaire. La justice américaine a étudié son cas, le voilà libre. Il s'agit de Julian Assange. Il a atterri dans son Australie natale tout à l'heure à l'issue d'un accord avec la justice américaine qui a mis fin à une saga... Excusez-moi. Une saga judiciaire de près de 14 ans. Sa femme explique qu'il a besoin de temps pour récupérer. Un retour en Australie de Julian Assange, un fondateur de Wikileaks, salué par le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui reconnaît que son pays a joué un rôle dans la libération du lanceur d'alerte. Et toujours au chapitre judiciaire, en Argentine, le procès contre trois personnes accusées d'avoir tenté d'assassiner Cristina Kirchner s'est ouvert ce mercredi. Il a commencé ce matin. C'était en septembre 2022. Un homme a tenté de tuer en pointant un pistolet l'ex-vice-présidente. Sa compagne de l'époque et son patron sont aussi sur le banc des accusés. Tous les trois sont arrivés tout à l'heure dans un tribunal de Buenos Aires. Pour le principal accusé, cette tentative d'assassinat était, je cite, « un acte de justice pour le bien social qui visait une personne corrompue, qui vole et qui nuit à la société ». Fin de citation. 22h05 ici à Paris, la suite du journal avec l'actualité de ce mercredi qui est aussi la politique en France avec les élections législatives, J-4 avant le premier tour. Et d'ores et déjà, les Français de l'étranger ont commencé à voter. Ils ont jusqu'à demain midi. Vote qui se déroule en ligne, mais le site a vite été pris d'assaut, ce qui a entraîné des problèmes d'accès aux services. Et à 4 jours du premier tour en métropole, l'extrême droite fait toujours la course en tête dans les sondages et de nombreuses voix s'élèvent pour exprimer leur inquiétude face à la perspective de voir le Rassemblement National arriver au pouvoir. Les tribunes, elles, se multiplient, crainte d'artistes, de sportifs, mais aussi de scientifiques. Et en parallèle, des personnalités reçoivent des messages racistes sur leurs réseaux sociaux ou même directement à leur domicile. Une parole raciste libérée qui a déjà des conséquences sur la vie des personnes visées. C'est ce qu'explique le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.
Quand on vit dans un pays, la question de l'ambiance, la question d'être accepté, la question des violences que l'on subit relève aussi du symbolique et du verbal. Être ciblé parce que on est étranger ou parce qu'on est d'origine étrangère, c'est déjà une conséquence dans la vie des gens qui sont ciblés et dans leurs entourages. Hein, parce que souvent, on parle de la question des étrangers versus les Français, mais combien de couples mixtes français-étrangers, combien de personnes dont les parents sont étrangers alors que eux sont français, ça a des conséquences qui sont évidemment extrêmement importantes dans la vie des gens. Et les conséquences encore plus concrètes seraient beaucoup plus visibles, si je puis dire, si cela se poursuivait et s'il y avait une victoire de l'extrême droite, dans la mesure où là, on pourrait s'attendre non seulement à des conséquences juridiques, bien évidemment, mais aussi dans la pratique, ne serait-ce qu'en termes de discrimination.
Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, qui était l'invité d'Anne Cantner dans RFI Midi. Et dans ce contexte, plusieurs groupuscules d'ultra-droite, dont le GUD actif à Paris et les Remparts basés à Lyon, ont été dissous ce mercredi en Conseil des ministres à quelques jours du premier tour des élections législatives. Une association islamiste, Jonas Paris, a également été dissoute. En France également, où le ministre de la Transition écologique se félicite de la baisse des émissions de gaz à effet de serre au premier trimestre de cette année. Nette baisse de 5,3% par rapport à la même période l'an dernier. C'est l'énergie qui participe le plus à la décarbonation avec un recul des émissions de 16,8%. On raisonne notamment de l'accélération de production d'électricité décarbonée, tout comme d'ailleurs le secteur des transports et notamment de l'aérien. Toujours en ce qui concerne le dossier environnemental, cet accord historique au Danemark est une première d'ailleurs dans le monde. Le pays scandinave va mettre en place en 2030 une taxe carbone sur l'élevage, responsable, comme d'autres secteurs, de l'économie d'émissions de gaz à effet de serre qui cause donc le réchauffement de la planète. Après 5 mois de négociations ardues, le gouvernement tripartite est donc arrivé à un compromis avec les représentants des agriculteurs et les défenseurs de l'environnement, Lucille Jambert.
Les zones agricoles couvrent 2/3 du territoire du Danemark, gros exportateur de porc et de produits laitiers. Et l'agriculture est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Il était donc temps de décarboner les fermes, explique Thorsten Arsford du groupe de réflexion pro-climat Conchito.
Notre production d'énergie a évolué. Elle est passée du charbon aux éoliennes et aux panneaux solaires. Nous achetons des voitures électriques. Nos industries disent aussi au revoir au charbon, au gaz et au pétrole et utilisent de l'électricité à la place. Mais avec l'agriculture, ça restait difficile. Cet accord, c'est donc une façon de forcer le monde agricole à trouver des solutions pour réduire ses émissions.
16 euros par tonne de CO2 émise à partir de 2030, puis 40 euros à partir de 2035. Les agriculteurs ont signé. Cela leur laisse le temps de se retourner. Emma Sander de l'Association danoise pour la conservation de la nature.
Nous pensons que nous devons élever moins d'animaux et cultiver plus de plantes au Danemark. Et ce texte va contribuer à cette transformation structurelle. Cela dit, il existe des solutions pour réduire les émissions dans les fermes, certaines techniques de gestion du lisier, utiliser moins de fertilisants ou encore laisser une partie des terres en jachère.
L'accord prévoit aussi un fonds pour transformer des terres agricoles en forêts, restaurer des zones humides et réduire les rejets d'azote liés à la l'agriculture.
Lucille Gimbert, et puis un mot de football, puisque ça y est, l'équipe de France sait qui elle va affronter en huitième de finale de l'Euro 2024. Ce sera la Belgique. Le match aura lieu lundi à 18h, heure de Paris, 16h, temps universel. Pour l'heure, 22h10, ici à Paris, couleur tropicale. Claudie Sciard sur RFI.